Bonjour, c'est Harry. Dans ce rendez-vous hebdomadaire, ouvrons ensemble une parenthèse philosophique pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Tout le monde a une idée de l'amour. L'amour est sans doute le seul sujet dont nul n'oserait dire « cela ne me concerne pas ». Mais celui qui s'en croit préservé, même celui qui s'en défend, même celui qui s'en moque, se définit malgré lui par rapport à lui. On peut être indifférent à la politique, étranger à la science, rétif à la musique, mais à l'amour, jamais. L'indifférence elle-même est une manière d'en parler. Dès l'enfance, l'amour s'impose. Dans le regard d'une mère, dans la voix d'un père, dans le geste tendre d'un grand-parent. Plus tard, il surgit sous la forme de l'amitié, cet attachement sans jalousie, fait de partage et de fidélité. Puis il explose en passion, ce vertige qui bouleverse le corps et l'âme. Enfin, il s'élargit parfois à la charité, à la bienveillance universelle, au désir de faire du bien. Pas étonnant que la littérature, le cinéma, la musique en aient fait leur thème de prédilection. Quel roman se passe d'amour? De Roméo et Juliette à l'amant de Lady Chatterley, de la princesse de Clèves à Madame Bovary, l'amour traverse toutes les époques. Au cinéma, de Casablanca à Titanic, de Sur la route de Madison à La La Land, il fait battre nos cœurs de spectateurs. Et que dire de la chanson? De Piaf et son hymne à l'amour, à Barbara, de Brel chantant Ne me quitte pas, à Aznavour avec Que c'est triste Venise, en passant par les tubes contemporains. Toujours, l'amour inspire, obsède, consume. Et nous-mêmes, chacun, chacune, nous avons notre répertoire intime. Le premier baiser, la première déception, l'amitié qui dure, la tendresse d'un enfant, la main qu'on tient au chevet d'un malade, tout cela, c'est l'amour, sous de multiples visages. Pour y voir plus clair, les Grecs nous ont laissé trois mots précieux, trois mots qui balisent encore nos expériences. Eros, l'amour-passion, celui qui brûle, qui emporte, qui désire, qui veut posséder. Philia, l'amitié, l'amour complice, qui se réjouit de la présence de l'autre, qui construit dans la durée. Agapé, l'amour désintéressé, la charité, l'amour universel, celui qui donne sans rien attendre. Ces trois mots ne désignent pas trois mondes séparés. Ils sont les pôles d'un même champ, les couleurs d'un même spectre. Tantôt c'est le rouge ardent des roses qui domine, tantôt le bleu apaisant de la philia, tantôt la blancheur lumineuse de l'agapé. Et la plupart du temps, c'est un mélange instable, changeant, qui compose nos vies. C'est dans le banquet de Platon que l'Occident a appris à penser l'amour. Aristophane y raconte le fameux mythe des androgynes. Autrefois, dit-il, nous étions des êtres sphériques complets. Zeus, craignant notre puissance, nous a tranchés en deux. Depuis, chacun recherche sa moitié perdue. L'amour, ce serait donc cette quête de l'unité, ce désir de fusion, ce rêve d'être à nouveau entier. Cette vision romantique nous séduit encore. Combien d'histoires d'amour se racontent comme la recherche de l'âme sœur? Combien de chansons reprennent ce motif « Sans toi, je ne suis rien » Mais Socrate, rapportant l'enseignement de Diotime, vient troubler ce rêve. L'amour, dit-il, n'est pas à plénitude, mais manque. On désire ce qu'on n'a pas. On aime ce dont on est privé. Le désir, par essence, est souffrance. Et même si l'on obtient l'objet désiré, le manque disparaît, et avec lui le désir. De là, cette formule redoutable, il n'y a pas d'amour heureux. Aragon l'a reprise en poésie, il n'y a pas d'amour heureux. Barbara l'a chanté, et combien de couples, après l'ivresse des débuts, font l'expérience de ce décalage. Ce qui faisait battre le cœur s'émousse, la passion se lasse. L'ennui s'installe. De Tristan et Iseut à Roméo et Juliette, de Werther à Anna Karénine, la littérature regorge de passions impossibles. L'amour y est sublime parce qu'il est interdit, contrarié, voué à la mort. Denis de Rougemont, dans L'amour et l'Occident, a montré combien notre culture est construite sur ce culte de la passion malheureuse. La passion aime l'obstacle, la distance, le danger. Elle se nourrit de séparation. C'est pourquoi elle s'épanouit souvent dans le drame plutôt que dans la vie quotidienne. Schopenhauer, héritier de Platon, radicalise encore. Pour lui, l'amour n'est pas fait pour notre bonheur. C'est une ruse de la nature pour assurer la survie de l'espèce. Nous croyons aimer une personne singulière, mais en réalité, c'est l'espèce qui parle à travers nous. Cruel désenchantement, derrière les plus beaux poèmes d'amour, il n'y aurait que la biologie. Rousseau illustre cette ambivalence. Dans la Nouvelle Héloïse, il célèbre la passion comme expérience sublime, capable d'élever l'âme. Mais dans Émile, il constate que cette passion est instable, contradictoire, destructrice. L'amour conjugal, dit-il, est une tentative pour donner une forme durable à l'élan amoureux, mais il s'expose à l'ennui, à la jalousie, à l'usure. Combien de couples aujourd'hui encore oscillent entre la brûlure de la passion et la fadeur de la routine. Rousseau l'avait déjà pressenti. L'amour est une promesse impossible à tenir entièrement. À l'inverse de ses visions tragiques, Montaigne propose une sagesse plus douce. Pour lui, l'amour n'est pas seulement passion, c'est aussi complicité, honnêteté, partage. Il célèbre l'amitié comme modèle, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Cet amour-là n'a rien de spectaculaire. Il ne fait pas l'objet de grandes tragédies, mais il construit une vie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, parfois avec un brin de moquerie, l'amour tranquille. Pourtant, n'est-ce pas cela ? Aussi la grandeur de l'amour, durer, accompagner, vieillir ensemble. Avec Aristote, un autre souffle apparaît. Pour lui, l'amitié est une condition du bonheur. Aimer, c'est se réjouir de l'existence de l'autre, non pas souffrir de son absence, mais se réjouir de sa présence. Spinoza reprend et approfondit. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Autrement dit, j'aime parce que ta présence m'élève, m'accroît, me réjouit. Loin d'être un manque, l'amour est une puissance. Comte Sponville reprend cette intuition contre Platon et Schopenhauer. Le désir n'est pas un manque, il est une puissance. L'amour n'est pas une condamnation au malheur, mais une promesse de joie. Aimer, c'est remercier, c'est dire merci d'exister. Mais Kant nous rappelle que l'amour ne se commande pas. Un sentiment ne peut pas être un devoir. On ne peut pas dire « tu dois aimer », ce serait absurde. En revanche, on peut agir comme si on aimait. C'est ce qu'il appelle l'amour pratique. Accomplir ses devoirs envers autrui, même sans passion. Ainsi, la morale est un substitut de l'amour, un semblant. Quand l'amour est là, il dispense du devoir. Mais quand il manque, la morale prend le relais. Et nous voilà tenus d'agir avec respect, même envers ceux que nous n'aimons pas. Nietzsche, de son côté, critique la passion comme dépendance. Il se méfie du mariage, qu'il voit comme un compromis médiocre. Mais il célèbre l'amitié comme forme noble d'amour, un amour qui respecte la liberté de l'autre, qui élève, qui ne possède pas. L'amour véritable, dit-il, est proche de l'amitié. Il n'écrase pas, il exalte. Le christianisme introduit un nouveau mot, agapé, l'amour charité, l'amour universel. Aimez-vous les uns les autres, dit l'Évangile. Aimez même vos ennemis. Dieu serait amour. Cet idéal peut sembler inaccessible, mais il inspire encore nos vies. Même athée, Comte Sponville reconnaît en l'agapé une valeur précieuse. Tendresse, douceur, bienveillance. Aimer sans condition, même si ce n'est qu'un horizon, c'est déjà transformer nos vies. Au fond, ces trois amours, Eros, Philia, Agapé, ne s'opposent pas. Ils dessinent ensemble le champ d'aimer. La passion nous enflamme, l'amitié nous construit, la charité nous élève. Aucun ne suffit seul. Mais ensemble, ils composent l'éventail de nos expériences. Dans un couple, il y a souvent un peu d'éros au début, beaucoup de philia ensuite, et parfois une pointe d'agapé, quand l'un s'occupe de l'autre malade ou fragile. Dans la vie, ces trois dimensions s'entrelacent. Sans amour, que vaudrait la vie ? Pourquoi créer ? Pourquoi travailler ? Pourquoi persévérer ? L'amour de ses enfants soutient les parents. L'amour de la vérité guide le philosophe. L'amour de la justice inspire le citoyen. Comme le dit Oscar Wilde, seul l'amour peut garder quelqu'un vivant. Et comme le chante Brel, quand on n'a que l'amour à offrir en partage. Sans amour, nos vies seraient sèches, réduites à la survie. Avec lui, elles deviennent aventure, poésie, espérance. Alors que retenir ? Que l'amour est à la fois le manque et la plénitude, souffrance et joie, passion et sagesse. Qu'il ne faut pas choisir entre Eros, Philia et Agapé, mais apprendre à les conjuguer. Apprendre à transformer la passion en tendresse, le manque en gratitude, le désir en puissance. Apprendre à aimer l'autre tel qu'il est, imparfait, mortel, mais unique. C'est difficile, oui, mais c'est la plus belle des tâches. Car aimer, c'est remercier la vie. C'est dire à l'autre simplement « merci d'exister ». Et ainsi se referme notre parenthèse philosophique. À bientôt pour de nouvelles pensées. C'était Harry sur Radio Prévert.